Katrina, 3 ans déjà. C'était, vous le savez, le 29 août 2005. L'un des ouragans les plus violents de l'histoire américaine s'abattait sur la Louisiane, laissant derrière lui un spectacle de désolation, notamment à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans qui ne parvient plus désormais à swinguer comme elle swinguait autrefois, d'autant plus qu'un nouvel ouragan apparemment menace encore une fois la Louisiane et que 3 ans après, les traces de Katrina sont encore loin d'avoir été effacées. C'est en tout cas ce que l'on va vérifier ce soir avec nos deux invités, Alban Fischer et Tristan Mendès-France. Alors on peut dire que vous formez tous les deux, Tristan et Alban, un duo de reporters dont la réputation sur le net est maintenant fermement établie. On peut suivre en live chacun de vos voyages sur votre site blogtrotter.fr. Et évidemment, à TSF Jazz, quand on a su au printemps que vous alliez passer une partie de l'été à la Nouvelle-Orléans sur les traces de Katrina, eh bien on a tout de suite conçu ce rendez-vous avec vous. D'abord, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors peut-être qu'avant de parler de la Nouvelle-Orléans, on peut peut-être résumer déjà en deux mots votre aventure, l'aventure des Blocktrotters.
Alors on a lancé ça en fait il y a 2 ans avec une idée assez simple, essayer d'inviter les internautes à des rendez-vous réguliers tous les 2-3 mois pour une durée d'une petite semaine à 10 jours quelque part sur la planète pour évoquer un sujet en général un peu difficile lié à la citoyenneté, l'environnement ou la mémoire.
Et alors le côté interactif, Alban ?
Le côté interactif, c'est explorer une nouvelle voie. C'est l'idée de faire rencontrer des gens avec nous, de les amener à voyager avec nous, de les apporter avec nous en voyage, dans notre valise, on pourrait dire, et les faire découvrir des choses qui sont pas forcément à la portée de tous. Fit some kind of way, 'cause he need that darn back band. I don't know.
Alors comment s'est construite justement la décision d'aller à la Nouvelle-Orléans ? Qu'est-ce qu'il y avait dans votre esprit ?
Il y avait une conjonction c'est un peu comme à chaque fois la même chose, des conjonctions d'événements, d'une fenêtre qui nous semble intéressante. D'abord, effectivement, on voulait aller, disons, quelques semaines, voire un mois ou deux à peine, avant l'anniversaire, effectivement, des 3 ans de l'après-Katrina, et aussi quelques mois avant une date évidemment essentielle, qui est le 4 novembre prochain, les élections américaines. Et c'était l'occasion pour nous aussi de voir un peu ce qu'il en était. Je peux dire que on avait été, comme tout le monde, très choqué par ces images qu'on avait vues il y a 3 ans, et on savait vraiment pas très très bien ce qu'il en était aujourd'hui, 3 ans après. Et on s'est dit, pourquoi pas y aller sur place et prendre un peu le pouls de la population sur place et voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui.
Alors on va justement refaire entre guillemets ce voyage avec vous deux, hein, tout en écoutant quelques séquences que vous avez tournées sur place, et il y en a vraiment d'assez édifiantes. Peut-être justement avant d'écouter la première séquence, les premières images comme ça. Vous arrivez sur place à la Nouvelle-Orléans, quelles sont les images qui vous saisissent très vite dès que vous êtes là-bas ?
Les images, c'est plutôt déjà la température. Il fait très chaud à la Nouvelle-Orléans quand on est arrivé. Une ville qui est très vide, c'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir une grosse ambiance, et on se trouve dans une ville qui a été quand même décimée de la moitié de sa population, donc peu de monde dans les rues. Je crois que c'est ça les premières images, une pauvreté quand même assez présente.
Qui saute au regard tout de suite ?
Qui saute au regard. On va dire qu'il reste une population qui est restée là par défaut. Donc les gens qui ont pu partir sont partis. Les gens qui restent, c'est des gens soit qui l'ont choisi parce que c'est des amoureux de la Nouvelle-Orléans, soit c'est des gens qui n'ont pas eu les moyens de partir et qui n'ont pas eu les moyens de reconstruire leur vie autre part. Donc je crois que c'est la première image qu'on a eue en arrivant.
Et alors justement, puisqu'on parlait de pauvreté, je crois que c'est symbolisé, enfin moi je me rappelle de ce que j'ai pu voir à ce moment-là sur votre site, par un sans-abri. On a le sentiment que ce sans-abri, c'est l'une des premières personnes qui s'empare de votre petite caméra.
Oui, c'est en fait la première personne qu'on a rencontrée. On a vraiment ouvert notre micro dans les rues, un peu au hasard, et on est tombé sur une personne qui est la première personne avec qui on a échangé. On ne savait pas que c'était un sans-abri. C'est en fait au fur et à mesure de la conversation qu'on a découvert qu'il n'avait plus de maison. Et ça a été effectivement notre premier contact, j'ai envie de dire, verbal avec une personne locale sur place. Et pour revenir juste à la première impression, il y a aussi une très forte impression de contraste quand on était là-bas. On était dans un quartier qui était le vieux quartier français, qui est un quartier assez bien conservé. Mais juste à côté, il y a des quartiers qui sont tout simplement dévastés et qui sont encore marqués par les stigmates de l'après-Katrina 3 ans après. Donc grand contraste, c'était surtout ça.
Et c'est dans ce fameux quartier français que vous découvrez ces fameux Katrina Tours. On va peut-être en dire quelques mots maintenant.
Absolument. On était, en fait, c'est l'un des internautes qui nous suivait, qui nous a posé la question. C'est le jeu du participatif, hein, avec notre blog, et qui nous a interrogé en nous disant mais que pense la population locale des fameux Katrina Tours ?
Alors c'est quoi ?
Alors un Katrina Tours, simplement, c'est des entreprises commerciales touristiques qui organisent donc des tours pour visiter justement les endroits qui ont été dévastés par Katrina. Et apparemment, ça marche très très bien.
Eh bien justement, on va entendre ce que ça donne hein, avec cette petite séquence que vous avez tournée sur place. Et je crois que on va voir ça, ce que ça donne, comment ça se passe ces Katrina Tours. Et dans la foulée également, les réactions de deux ou trois habitants de la Nouvelle-Orléans que vous avez recueillis à propos de ces fameux Katrina Tours.
Hello, can I have some information? I wanted to know if you organize...
Bonjour, est-ce que vous organisez des visites guidées autour de Katrina? Oui, absolument. Quelles sont les choses qu'on peut effectivement voir? Oh mon Dieu, il y a plein de choses. Ça commence ici dans les environs et ça va jusqu'à l'est de la Nouvelle-Orléans. Donc on peut voir des endroits qui ont été particulièrement frappés. Oui, et qui le sont toujours actuellement. Quand est-ce que cette visite a été créée ? En fait, dès que la ville a été rétablie, juste après l'ouragan. En tout cas, c'est la visite la plus populaire que nous ayons.
Oh, it is. And what is the price for one adult?
For adults, it's $35.
Pour les adultes, c'est $35. Et les enfants, 28. C'est tous les jours, trois fois par jour. Mais c'est raté pour aujourd'hui.
I've missed it for today. Mm-hmm. Okay, that's unfortunate.
But they'll start back up first thing in the morning.
Okay. Can I ask you another question? Are you you're not the only one to organize those tours, are you?
There may be some other Katrina tours.
Vous n'êtes pas les seuls à organiser ce genre de tour. Non, effectivement, il y a peut-être d'autres tours. Mais j'ai fait celui-ci et c'est vraiment le plus émouvant.
Well, thank you very much.
You're welcome.
Thank you.
Thanks for coming.
Thank you.
Vous trouvez ça étrange ou normal, ce genre de tour ? Je trouve ça simplement déplorable. Que pensez-vous des Katrina Tours qui sont organisées près d'ici ? D'abord, ça me dégoûte. J'ai encore de la famille ici. Ils pourraient nous aider d'une manière ou d'une autre. Ces visites... guidé, ce n'est pas la Nouvelle-Orléans. Et puis, quelque part, c'est corrompu.
Voilà pour les Katrina Tours à la Nouvelle-Orléans. On le verra, enfin, vous l'avez vu, je crois, tout au long de votre voyage, mais au-delà des problèmes matériels, les problèmes de dignité, c'est très présent dans l'esprit des habitants de la Nouvelle-Orléans que vous avez rencontrés, notamment de la population noire de la Nouvelle-Orléans.
Une grande dignité, mais qui est alimentée par une grande frustration. On a croisé beaucoup de gens qui avaient l'air assez aigres et qui étaient extrêmement, qui en voulaient beaucoup à l'État fédéral de ne pas les avoir suffisamment aidés. Mais dans ce désarroi, effectivement, on a quand même rencontré des personnalités très très belles, des gens qui sont dans le désœuvrement total et qui vraiment gardent la tête haute, qui sont fiers d'être de la Nouvelle-Orléans, qui aiment leur ville, mais on sent malgré tout une certaine aigreur. La moitié de la population est partie, donc les personnes qu'on voit et qu'on a croisées ont forcément perdu la moitié de leurs amis, ou en tout cas leurs amis ne sont plus à côté d'eux, ou la moitié de leur famille. Donc je crois qu'il y a une grande cicatrice encore béante aujourd'hui, mais avec une belle dignité. Vraiment, on a vu des gens qui étaient très désœuvrés avec la tête haute.
Et 3 ans après, alors, on peut dire que ce qui aurait dû être fait n'a pas encore été fait.
Vraisemblablement, oui. Ce qu'on peut dire de façon très certaine, c'est que le visage de la Nouvelle-Orléans ne sera plus jamais le même. On a eu plusieurs échos en allant là-bas et on ne connaissait pas la Nouvelle-Orléans avant. Mais ceux qui habitent là-bas et qui ont pu nous décrire un petit peu le changement d'ambiance, d'atmosphère, quand une ville perd la moitié de ses habitants et que beaucoup d'immigrés viennent qui n'étaient pas des gens qui habitaient là avant, ça change le visage de cette ville, ça change l'âme. C'est un mot qu'on nous a dit plusieurs fois.
Ça va de pair avec dignité.
Et oui, en plus. Et donc l'âme de la ville a changé. La Nouvelle-Orléans aujourd'hui, pour ceux qui l'ont connue avant, ça n'est plus la même ville.
Alors, il y a évidemment cette séquence que vous avez construite, les oubliés de Katrina. Elle a été tournée où, cette séquence, allemand?
Alors, c'est dans le Ninth Ward.
C'est quoi ce quartier?
C'est un quartier qui a une double existence. C'est un des quartiers qui a été le plus durement touché par Katrina. C'est un quartier qui est pauvre, qui est à majoritaire black américaine. Et qui a été reconstruit en partie et on a pu y voir deux choses. Il y a donc cette partie qui est complètement dévastée et cette reconstruction où ils ont essayé de faire un village de musiciens pour le repeupler et essayer de reconstruire quelque chose avec une genèse un petit peu nouvelle-orléanaise, j'ai envie de dire, et cette culture. Dans la séquence précédente, il y a quelque chose qui est important, c'est, je crois que ce que nous ont dit beaucoup de gens qui ont été victimes, c'est la reconstruction touristique un petit peu de la Nouvelle-Orléans et c'est leur ressenti. Les gens pensent parfois qu'ils ne sont plus forcément les bienvenus dans le centre de la Nouvelle-Orléans et qu'on a plus envie de faire de la Nouvelle-Orléans un tour plutôt qu'une ville avec la culture et l'existence qu'elle avait eue.
Ils ont l'impression en fait d'être dans un truc à la Disney, quoi.
Voilà, une reconstruction à la Disneyland. Mercy when they don't know the meaning of the word. A bad enough situation is sure enough getting worse.
Alors, les oubliés de Katrina, on va justement entendre d'autres paroles d'habitants de la Nouvelle-Orléans sur leur état de frustration, de désarroi surtout. Alors, contrairement à la séquence précédente qui était déjà traduite, là, je vais vous demander, celle qu'on va écouter, je vais vous demander de faire la traduction en live, entre guillemets, les oubliés de Katrina, tout de suite.
Est-ce que vous êtes content de la situation 3 ans après?
Non,
je ne suis pas content parce qu'il a fallu 3 ans pour réagir et seulement 6 mois pour le tsunami. Ici, ils ont tout rasé. Et les gens dorment maintenant sous les ponts. Et pourquoi? Ils ne veulent pas de nous ici?
So tell me, you live here?
Yes, I do. Yes, I do.
Oui, j'habite ici. J'ai évacué 2 jours avant l'ouragan Katrina.
And now you're back here.
Back here trying to rebuild.
Now, the water was how high actually when it went around?
Et l'eau est montée jusqu'où?
At least 9 to 10 feet right here. Yeah.
You mean up to?
Entre 9 et 10 pieds.
God.
Exactly.
So the community sense was destroyed. You mean now there's no more?
Donc la communauté a été détruite.
Everybody's gone, so a whole lot of people haven't returned because most New Orleans was renters.
Oui, les gens ne sont pas revenus.
When you have damn 50% of your people's renters, you know.
Parce que la moitié des gens payer des loyers qui ont doublé, voire triplé. Écoutez, bonne chance. On va en avoir besoin.
Ce qui est troublant, c'est que ce dernier personnage que vous avez interviewé, il est de bonne humeur, il rit. Et donc, comment vous avez interprété ce rire devant votre caméra?
C'est peut-être effectivement une certaine... On parlait de dignité tout à l'heure. C'est quand même assez incroyable de croiser quelqu'un dans un paysage de ruines et qui vient vers nous avec un sourire, on le voit en ligne sur la vidéo, un sourire énorme qui rit, qui a de l'humour, qui vient vers nous vraiment de façon très amicale. Et je dois dire qu'on a été assez impressionnés par cette gentillesse naturelle, même si on nous avait prévenu auparavant de ne pas aller dans ce quartier qui était supposé être l'un des plus dangereux de la Nouvelle-Orléans. C'est pas du tout ce que nous on a perçu en étant là-bas. On était deux entre guillemets blancs, parce que là-bas on parle de couleur, donc on était deux blancs entourés de noirs. On n'a absolument pas senti aucune animosité, et au contraire des gens très accueillants, souriants, avec une pointe d'humour. Et voilà, je crois qu'on a été assez impressionnés par les quelques personnes qu'on a pu croiser là-bas.
Il y avait des paysages de ruines.
C'est lunaire. On a l'impression que des extraterrestres sont venus et qu'ils ont tout fait disparaître. C'est des maisons qui sont encore élevées, où il n'y a plus rien dedans. C'est-à-dire que tout a été dévasté, mais comme si un ouragan.
Et les trottoirs, les routes.
Il n'y a plus vraiment de trottoirs, plus vraiment de routes. Ce qui est incroyable, c'est que 3 ans après, rien n'a été reconstruit. Qu'on a l'impression qu'il ne faudrait pas tant que ça pour reconstruire, mais qu'aucun ordre, aucun argent n'est arrivé. Je pense que c'est ça qui nous a touché le plus.
Et puis aussi, en visitant les quelques ruines, on a vu donc des maisons un peu dévastées. Et ce qui est assez effarant, on est resté, je sais pas, plusieurs heures à se balader de maison en maison, qui était évidemment vide, mais il y avait des objets au sol. Et il y avait vraiment une étrange sensation que les gens étaient partis hier. Il y avait par terre des objets usuels.
Des vêtements.
Des vêtements, effectivement, des morceaux de papier, des choses qui sont très, très intimes et qui étaient vraiment disposées là, qui n'avaient pas été touchées depuis vraisemblablement 3 ans.
Et c'est là, Tristan, où on veut donc reconstruire ce fameux village des musiciens.
Oui, c'est effectivement juste à côté, donc pas très très loin, effectivement, qu'ils ont tenté de reconstruire sur fonds privés ces quelques maisons.
Et donc c'est à cette occasion que vous avez rencontré donc, un musicien de jazz, qu'il faut peut-être aussi en parler.
Donc c'est là qu'on a rencontré la famille Samson, Nicole et Dewey Samson, qui sont... Lui est musicien, il est bassiste, il a quitté la Nouvelle-Orléans juste après l'ouragan, et il est revenu grâce à ce programme qui s'appelle le quartier des musiciens, Musician Village.
Eh bien, on va l'écouter.
Hello, Dewey.
Hi.
Can you explain
Bonjour.
To me where we are
Où
right
sommes-nous
now?
Actuellement et qu'allez-vous faire dans une vingtaine de minutes? Eh bien, on se prépare à jouer. On est au Preservation Hall. Où on joue de la musique traditionnelle de la Nouvelle-Orléans. Et je suis un contrebassiste. On voulait avoir votre avis sur l'impact de Katrina sur la communauté jazz ici. Ça a été une très mauvaise chose. Ça a bouleversé les choses pour les musiciens. Lors de l'ouragan, une bonne partie des musiciens ont dû s'exiler. Ils n'ont pas pu encore revenir aujourd'hui. Et c'est difficile pour eux de revenir. D'abord parce qu'ils doivent payer de nombreuses taxes sur leur propriété. Ou plus simplement, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour revenir et ils ont besoin d'aide financière.
C'est quoi cette histoire de taxes sur les propriétés, Tristan ?
Mais en fait, ceux qui avaient leur maison et leur propriété avant Katrina, quand ils sont partis, eh bien, les impôts locaux ont continué à tourner. Ce qui fait que ceux qui sont revenus quelques mois après, revenaient et étaient en dette par rapport aux différentes administrations publiques. Matchbox Hole.
mile of my walk I do.
Et alors sur le côté jazz, le côté musique, vous avez senti aussi beaucoup de solidarité dans ce milieu, autant de solidarité que dans les autres secteurs de la population?
Nous, on n'était pas venus pour la musique, donc c'est vrai qu'on n'a pas, on va être honnête, on n'a pas un point de vue global, mais c'est vrai que c'est difficile. En plus, faut bien voir que les musiciens, c'est quand même un milieu socio-culturel un peu différent, parce que c'est des gens qui gagnent de l'argent quand ils se produisent, et quand ils peuvent plus se produire, tel était le cas après Katrina, ils gagnent pas d'argent, donc ils sont obligés de partir.
C'est bon.
C'est pas des gens qui ont des salaires, c'est ce qu'il nous a expliqué, il y a pas de salaire tous les mois, il y a pas de société pour les encadrer, etc. Donc quand Katrina a dévasté tout, ils sont partis dans les villes aux alentours, à New York, etc. Et ils ont essayé de rejouer de la musique là-bas. Et après, c'est très difficile de revenir quand on s'est installé.
Mais en fait, bon, on rejoue du jazz aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans. Enfin, je sais pas, vous avez eu. Vous avez vu des clubs.
Il y a plusieurs endroits. Il y a plusieurs endroits où on joue du jazz. Je pense que c'est une volonté politique de la ville de renouer avec le jazz, parce que c'est quand même là que le jazz est né, entre guillemets. Donc, je pense qu'il y a une volonté politique. Maintenant, je pense que c'est peut-être moins naturel. Et que c'est plus comme avant où il y avait des bœufs organisés dans la rue, etc. On l'a très peu vu alors qu'on nous en avait beaucoup parlé.
Run right by my baby
Et musicalement, c'est peut-être vous avez eu d'autres sons dans la tête, dans les oreilles, en dehors du jazz, peut-être d'autres musiques que vous avez peut-être vu surgir de manière plus forte à la Nouvelle-Orléans.
Bah c'est comme partout aux États-Unis, beaucoup de rap.
Hein.
Sud-américain, c'est du dirty rap, donc c'est très dur. Il y a aussi une communauté d'Amérique centrale qui est venue, donc il y a toutes ces sonorités aussi caribéennes, etc. qui viennent petit à petit. Non, je pense qu'il y a eu une grosse évolution après Katrina.
Bah de toute façon, sur le côté musical de ces 3 ans de Katrina, on renvoie évidemment nos auditeurs à une deuxième émission qu'on va faire sur cet anniversaire. Ce sera demain soir où on revisitera la Nouvelle-Orléans avec Jean-Jacques Milteau et David Copéran qui ont fait un voyage remarqué là-bas sur place. C'était au mois de mai. Tout de suite, on va marquer une pause et puis on va écouter les dernières séquences de votre voyage. Le 20h de PSF Suite avec le 3e anniversaire du cyclone Katrina à la Nouvelle-Orléans. Je vous rappelle que nous avons pour invités ce soir Alban Fischer et Tristan Mendes France, deux reporters qui sont allés sur place, qui sont allés à la Nouvelle-Orléans et dont on a pu suivre en tout cas le voyage et les reportages sur leur site blogtrotter.fr. On s'était quitté avec la dimension jazz de vos rencontres. Alors maintenant, autre séquence et puis peut-être autre thématique. Ça concerne les conséquences politiques du cyclone Katrina. Plutôt que de vous poser une question directement, on va peut-être plutôt écouter donc la séquence que vous avez tournée. Il s'agit donc d'un journaliste du New York Times, Adam Nociter, donc qui parle français et qui était présent lors de l'ouragan. Il a d'ailleurs fait, je crois que c'est un avis partagé par beaucoup de ses confrères, l'une des meilleures couvertures de la catastrophe.
Il faut savoir que Katrina a chassé la moitié de la population de la Nouvelle-Orléans, qui était avant l'ouragan à 70% noire. Donc la majorité des gens qui sont toujours hors de la ville sont des Noirs. Et leur absence a impacté énormément la politique locale, dans la mesure que on voit pour la première fois, par exemple, depuis 30 ans, une majorité blanc au conseil municipal. Le maire qui est noir se sent assiégé par cette nouvelle donne politique. Pour la première fois depuis très très longtemps, les citoyens noirs de la ville n'ont pas le main haut sur le pouvoir politique.
c'est important, ça, de savoir que, qu'un conseil municipal, c'est, il doit y avoir une majorité de noirs ou de blancs, et ça compte quand la situation change.
Ici, ça choque, bien sûr, mais aux États-Unis, c'est un pays communautariste. Et donc, tout est basé là-dessus. On appartient d'abord à sa communauté avant d'appartenir aux États-Unis. Et donc, ça a effectivement des conséquences. Encore une fois, ça n'est pas audible ici en France. On n'entendrait pas ce genre de choses. D'ailleurs, c'est même pas tout à fait légal de faire des différences entre la couleur et l'ethnie des gens. Mais bon, on parle des États-Unis, et là, on a un journaliste donc qui exprime très clairement le fait que le visage de la ville a été profondément modifié par l'après-Katrina, et que la composition, effectivement, qui était majoritairement noire à l'époque, a été modifiée. Ce qu'il ne dit pas dans ce passage-là, et qu'il dit un peu peut-être après, c'est que autant les Noirs, qui étaient évidemment les plus pauvres, ont dû quitter la Nouvelle-Orléans et n'ont pas pu revenir, autant la main-d'œuvre qui était toujours nécessaire a été remplacée. Elle a été remplacée par essentiellement des immigrants mexicains ou des Chicanos. Et c'est comme ça qu'ils les appellent. Et ça crée aussi, apparemment, il y a des conflits ou des animosités intercommunautaires où il y a effectivement une partie de la population noire qui voit d'un mauvais œil cette arrivée d'immigrants mexicains ou chicanos qui eux-mêmes aussi modifient encore une fois le visage de la ville. Donc on est dans une véritable bouleversement ethnique, si on peut employer ce terme-là, de la ville, et qui a des conséquences évidemment politiques à moyen terme.
Et en même temps, la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, ça reste une terre démocrate. On a vu au moment des primaires que ça a voté Obama, et on imagine que, vu ce qui s'est passé le 29 août 2005, c'est difficile d'être républicain à la Nouvelle-Orléans.
On l'espère, effectivement. Nous, on avait interviewé donc ce journaliste qui lui-même, bon, il s'admit de tous, très démocrate, donc il nous a dressé un portrait assez apocalyptique du vote républicain, en nous disant qu'effectivement les républicains, on les cherche à la Nouvelle-Orléans. On verra ce que ça donne aux prochaines élections, mais effectivement c'est une épine dans le pied des républicains. Cette gestion post-Katrina reste quelque chose qui grève énormément le message politique des républicains.
Qu'est-ce qu'on dit justement, Alban, plus précisément sur cette gestion? Ici, on est à Paris, on a eu très vite écho de l'imprévoyance, enfin des erreurs qui ont été reprochées à l'administration Bush. Sur place, vous vous êtes rendu compte que le ressenti était encore plus fort, que ça avait vraiment marqué les esprits, la façon dont la Maison Blanche avait réagi à l'époque?
Bien sûr, bien sûr. Il y a la Maison Blanche, il y a aussi la communauté global. Enfin, quand on entend la personne qu'on entendait tout à l'heure dire que pour le tsunami, il a fallu 6 mois pour avoir énormément de fonds, énormément d'aide internationale, parce que c'était très important que les gens ont pris cette cause à bras le corps. Alors que c'est vrai que pour Katrina, on a pu le constater, 3 ans après,
C'est toujours pas réglé.
Voilà, rien n'est réglé. Des problèmes naissent, sont nés. Quand on voit les problèmes, comme disait Tristan, un petit peu ethniques, etc., des problèmes naissent de cet événement. Non, c'est un champ en friche, quoi. Rien n'a été reconstruit.
Et on a posé effectivement la question à plusieurs personnes sur place en leur disant, qu'est-ce que vous espérez pour la gestion de l'après-Katrina aux prochaines élections? On nous a systématiquement répondu Obama. Donc ça semble assez clair que ça n'est aujourd'hui qu'Obama qui est la réponse souhaitée par les personnes qui habitent à la Nouvelle-Orléans.
Et au-delà de l'aspect politique et des prochaines échéances politiques, ces habitants en tout cas semblent encore très très ancrés dans leur environnement. Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être compris par rapport à leur lien, à leur environnement? Je m'explique, on pourrait dire, mais pourquoi vous continuez, d'autres Américains pourraient dire, mais pourquoi vous continuez à vouloir vivre à la Nouvelle-Orléans? D'ailleurs, pourquoi vous avez décidé de vivre à la Nouvelle-Orléans quand vous connaissiez les risques par rapport à d'éventuelles catastrophes? Est-ce qu'ils ont un sentiment par rapport à cette pensée-là?
Il faut dire que le reste de la population américaine, que ça soit à l'ouest du pays, ils vivent sur la faille de Saint-André. Bon, et on leur fait pas ce même procès. Donc j'imagine qu'ils ont effectivement ça en tête. Pour le reste, je crois effectivement qu'il y a une sorte de microclimat à la Nouvelle-Orléans. Ils ont l'impression d'être une particularité aux États-Unis. On a souvent eu cette impression en discutant avec eux qu'ils n'étaient pas tout à fait, ils n'avaient pas le même lien avec même les États qui les environnent. C'est peut-être dû à cette présence française, étrangement, qui a aussi historiquement beaucoup marqué le pays. Et eux-mêmes en ont conscience et regardent l'extérieur comme un ailleurs, effectivement.
Quand vous êtes arrivé sur place, il devait y avoir, je crois, des procès qui devaient débuter. En tout cas, je crois que vous en aviez entendu parler dans les journaux par rapport au relogement de personnes qu'on avait installées dans des mobile homes. Je crois que ça nous amène donc à cette fameuse séquence des assureurs, hein, des compagnies d'assurance qui font quand même beaucoup de misère à certains habitants de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que, avant d'écouter la séquence, vous pouvez nous la présenter ?
Alors, on a effectivement essayé de chercher, on avait lu dans la presse, on entendra peut-être dans la séquence, que l'État fédéral s'était engagé à reloger, en tout cas, et à reloger toutes les personnes qui étaient logées temporairement dans des mobile homes d'État, entre guillemets, et que tout ça devait se terminer au 31 mai dernier.
D'accord, c'était le mois de mai, voilà, l'échéance.
Et on voulait voir effectivement si c'était le cas.
We can ask you a few questions.
On peut vous poser quelques questions ?
So that is actually a FEMA trailer.
Donc là, on est dans un mobile home d'État. Combien de temps vous avez vécu dans ce mobile home?
Like 2 years and I guess about, I don't know.
Environ 2 ans et 6 mois.
2 years and 6 months. Mm-hmm. And you had a house in the area before.
Vous habitiez ici?
Yeah, our house is actually on this lot.
Oui, nous habitions juste derrière ce mobile home.
Uh-huh, right behind this trailer. Where is they tore it down?
Mais notre maison a été rasée.
So and 3 years after, you haven't been able to.
Donc 3 ans après, vous n'avez pas pu reconstruire.
The house and you haven't had enough help to.
Vous reloger.
Go back to your home.
Yeah, that's right.
Non, nous n'avons pas pu. Les assureurs se battent contre nous. Et nous n'avons plus assez d'argent.
Still hasn't went through yet. We need to get the ICC claim. We need it, you know.
So because of the insurance problems, you're still living in this FEMA trailer.
Donc à cause des assureurs, vous vivez ici.
So this FEMA trailer was supposed to end.
Ce mobile home ne devait pas disparaître fin mai.
We read in the newspapers.
On avait lu dans la presse locale que c'était le cas.
There are still people living in.
A priori, ça n'est pas le cas.
Exactly.
Absolument.
Are you? I suppose you're quite frustrated with the situation.
Vous êtes frustré? Oui, tout à fait.
And you and your family definitely want to stay here. That's why you're staying in this trailer.
Vous et votre famille, vous voulez absolument rester ici.
My great grandparents lived here.
Bah oui, bien sûr, nos grands arrière-grands-parents vivaient ici.
We bought a house from them over here, and even though the house is gone, you know, we still have the same address. And
yeah, I understand that.
It was a good neighborhood, you know.
Nous avions un bon voisinage ici.
It looks nice today, but and so the breach just happened a bit over there.
Donc la digue a cédé non loin, juste là-bas.
Exactly.
Oui, absolument.
Bonne chance avec les assureurs, c'est ça que vous lui souhaitez à la fin.
Ouais.
Ça va être une partie d'un bras de fer difficile avec ces compagnies d'assurance.
Alors pour bien comprendre la problématique, en fait, il faut savoir que les Américains sont très majoritairement propriétaires de leur maison et donc font des crédits pour accéder à la propriété. Et quand Katrina a ravagé tout, les crédits ont continué à courir et les gens n'étaient pas forcément assurés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour s'assurer et pour assurer ces crédits. Donc aujourd'hui, les gens se retrouvent acculés face à des crédits qu'ils doivent continuer à payer et les assurances qu'ils ne veulent pas rembourser et qui attaquent, qui sont très offensives et qui attaquent les gens pour pas qu'ils puissent se défendre convenablement et être remboursés de leur maison.
C'est pour cette raison donc qu'il y a toujours des gens dans les mobile homes.
Oui, et d'ailleurs ces personnes qu'on a vues, notamment celles-là, participent aux premiers procès qui sont intentés contre les compagnies d'assurance. Ça c'était vraiment quelques temps après qu'on soit allé à la Nouvelle-Orléans, donc on n'a pas encore le résultat de ces procès, mais il y a une batterie de procès qui ont été lancés justement pour essayer de sauver ces personnes qui sont en déshérence totale.
Alors la dernière séquence de votre voyage, on peut dire qu'elle vous a un peu éloigné de l'espace urbain de la Nouvelle-Orléans. C'est un autre visage de la Louisiane que vous avez découvert, le Bayou. Quel lien vous avez fait entre tout ce que vous avez perçu à la Nouvelle-Orléans et ce que vous avez enregistré comme sensation, comme discours, comme sentiment dans le Bayou?
Il se trouve que le Grand Bayou, on les a découverts un peu par hasard en rencontrant des universitaires et des sociologues notamment, qui nous ont dit d'absolument aller voir la communauté du Grand Bayou, qui est apparemment l'une des communautés les plus significatives, dans la mesure où c'est celle qui a probablement été le plus durement frappée par Katrina.
Alors ça se passe où géographiquement ?
Alors ça se passe en fait au sud de la Nouvelle-Orléans. Ils sont vraiment en bordure de mer et c'est une communauté qui est assez étrange, assez particulière, qui vit là depuis près de 300 ans et qui est un mélange improbable et fort sympathique entre des Amérindiens et des Français. Et donc cette communauté a une particularité assez inattendue de parler un vieux français qui date du 18e siècle, donc avec des formulations extrêmement châtiées, un vocabulaire assez, assez surprenant, et des gens très attachants, mais qui encore une fois sont vraiment l'une des communautés qui ont été culturellement les plus frappées, et au jour d'aujourd'hui, ils vivent à un fil de la disparition culturelle.
Et vous avez, c'est là que vous avez rencontré un tempérament très énergique.
Absolument, ben on a rencontré en fait l'une des porte-parole, si on peut dire ça comme ça, de cette toute petite communauté et qui se bat depuis des années comme elle peut pour que la communauté ne disparaisse pas.
Rosita, c'est ça?
Oui.
Rosita.
Oui. Philippe. So, it's almost 3 years out and only 3 families have been able to come back. Après 3 ans, seules 3 familles ont réussi à revenir. Here, the Grand Bayou culture has... Donc, la culture Bayou a failli disparaître complètement. Oui, absolument.
We've always had storms. You know, we are indigenous to this area. We've been here for hundreds and hundreds.
Nous avons été ici pour des centaines et des centaines d'années. Et on se dit que le jour où on analysera la terre, cette terre, l'ADN de nos ancêtres seront présents. C'est plus qu'une question de simplement géographique. Nous appartenons ici. Nous sommes en symbiose avec cet environnement.
Quelle est leur activité au quotidien? C'est quoi leur métier exactement?
C'est des pêcheurs.
C'est des pêcheurs. Hein.
C'est essentiellement des pêcheurs. Ils vivent en fait sur l'eau, quasiment sur l'eau. Et d'ailleurs, on entendait dans la séquence le moteur du bateau. On a tourné ça sur une petite embarcation. Et ils nous ont fait visiter. En fait, on allait d'une maison à une autre. Et donc, on était sur ces fleuves ou ces canaux. Et c'est des gens de la mer.
Et alors, il y a un ADN du Bayou?
Bah, il faut croire, c'est des gens qui vivent complètement reculés par rapport au reste des États-Unis. C'est vraiment, là je pense que quand on disait tout à l'heure, quand Tristan disait tout à l'heure qu'il y avait une différence entre la Nouvelle-Orléans et le reste des États-Unis, là on la sent vraiment flagrante. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas la mentalité américaine, qui n'ont pas le American Dreams. Ils vivent sans le monde marchand, ils sont quasiment autonome, c'est-à-dire qu'ils pêchent dans le bayou, ils chassent du ragondin, mangent du crocodile et cultivent quelques légumes. C'est des gens qui ont leur tradition, leur culture et qui sont incompris, complètement incompris du gouvernement fédéral et du reste des États-Unis.
Oui, c'est des gens qui n'ont pas du tout cette passion propriétaire qu'ont les États-Unis. Justement, effectivement, l'American Dream, quand on a discuté avec elle, pour elle, c'était quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ce n'était pas du tout leur langage. Ils ne ferment pas les portes de leur maison. Ils s'invitent les uns chez les autres. Nous, ils nous ont reçus.
On a été accueillis, ça a été merveilleux.
On aurait pu rester et habiter là-bas. On était invités même à y vivre, si on veut. C'est des gens qui n'ont évidemment pas du tout la même logique économique consumériste qu'ont les Américains. Et c'était très touchant de les entendre et surtout de toucher du doigt une communauté centenaire, plusieurs fois centenaire, qui se réduit aujourd'hui, comme elle le dit, à quelques familles. Quelques familles, c'est une dizaine, quinzaine, une vingtaine d'individus. Si eux disparaissent, cette culture du Grand Bayou partira avec eux. Encore une conséquence dramatique de l'après Katrina qui n'est toujours pas résolue 3 ans après.
Et vous avez senti un attachement particulier aux Français?
Énorme.
Énorme, énorme.
Je veux dire qu'on était là-bas déjà, on était des petites stars, on venait de Paris. Ils s'essayaient donc avec leurs Français, ils nous ont fait écouter des musiques locales, des vieilles musiques, je sais pas si on du Bayou, je sais pas si on appelle ça comme ça, où les gens chantent en français, encore une fois avec un français, je vous dis, du 18e siècle, ce qui est assez étonnant. Et ils gardent une image qui est peut-être un peu une image d'Épinal, mais en tout cas une image de la France qu'ils portent extrêmement haut dans leur cœur, et il n'est pas rare que quand ils nous parlent de leurs parents ou de leurs grands-parents, ils nous rapportent le fait qu'eux refusaient d'apprendre l'anglais et voulaient absolument garder la langue française comme langue pour leur communauté.
Et pour finir, quel sentiment vous êtes reparti de la Nouvelle-Orléans pour chacun d'entre vous deux?
Je dirais quelque chose qui n'est évidemment pas terminé. Une ville qui est en train de redessiner son visage, une ville qui vraisemblablement ne sera plus jamais comme elle l'a été auparavant. On nous a beaucoup parlé d'une âme qui est en train de se chercher, de se reconstruire. Je crois que c'est cette sensation-là, en tout cas, que moi je garde au retour de la Nouvelle-Orléans.
C'est un petit peu pareil. Enfin, ce qu'on nous a dit, c'est que les Américains ont une grosse capacité d'adaptation, et donc ils vont se remettre. Et je pense que la Nouvelle-Orléans va retrouver une âme. Ça sera sûrement une âme différente de ce qu'elle a été, peut-être plus Disneyland comme on l'a dit. Mais je pense que de cette culture va rejaillir quelque chose. Et j'espère que, enfin moi j'espère y retourner. C'est vraiment un endroit qui m'a énormément plu. C'était des gens incroyables. On a l'habitude de quitter les endroits avec une situation un peu de frustration et de malheur, mais là, c'est assez nostalgique.
Eh bien, merci en tout cas pour avoir revécu, en tout cas sur l'antenne de TSF, ce voyage à la Nouvelle-Orléans, 3 ans après Katrina. Je rappelle, Tristan Bonespens et Alban Fischer, le nom du site où l'on peut suivre vos aventures, vos reportages, voir déjà là où vous avez été depuis pas mal d'années maintenant. Donc www.blogtrotter au pluriel en un seul mot .fr. Merci à vous d'être venu. Bonsoir.
Bonsoir, au revoir.